Je vais maintenant vous présenter donc le conférencier de ce soir. Jean-Pierre Varnier est né en 1939, il est ethnologue. Son statut, il est professeur d'ethnologie à l'université René Descartes Paris 5 et directeur du laboratoire d'ethnologie de Paris 5. Concernant son parcours, donc il est doctoresse lettres à l'université de Paris 10 Nanterre. De 72 à 78, il a fait des recherches de terrain dans les montagnes du Cameroun, de l'Ouest, et des missions de 15 jours à 4 mois sur le terrain depuis 1985. De 74 à 75, il a été maître assistant à l'université de Pennsylvanie. De 79 à 85, maître de conférence à l'université de Yaoundé. Depuis 85, il est professeur d'ethnologie à l'université René Descartes Paris 5. De 97 à 2000, il a été directeur du laboratoire d'ethnologie de Paris 5. Ses spécialités, il est donc spécialiste du Cameroun. Les travaux de Jean-Pierre Varnier portent sur la réaction des sociétés face aux flux culturels, ainsi que sur la culture et l'économie matérielle. Des publications, donc il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées, et il est membre de 6 ou 7 comités de lecture Research Fellow de l'Université de Londres. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Échange, développement et hiérarchie dans le Bamenda précolonial Cameroun », Stuttgart, Franz Steiner, Verlag en 1985, « Le paradoxe de la marchandise authentique chez l'Armatan en 1994 », Construire la culture matérielle, l'homme qui pensait avec ses doigts au PUF en 1999 et mondialisation de la culture à la découverte en 2003. Donc Jean-Pierre Varnier, je vous cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je remercie l'Université de tous les savoirs de me donner l'occasion de ce débat sur les réponses des sociétés à la mondialisation des flux culturels, le débat, bien entendu, étant un moteur essentiel de la recherche. En ouverture, je vais vous livrer un texte dont, pour l'instant, je ne vous dis ni quel est son auteur, ni la date. L'histoire humaine est semblable à une toile immense. La terre est le métier sur lequel elle est tendue. Les siècles assemblés en sont les infatigables artisans. Ils ne naissent que pour saisir aussitôt la navette et la faire courir sur la trame. Ils ne la posent que pour mourir. Ainsi, sous ses doigts affairés, va croissant d'ampleur le large tissu. L'étoffe n'en revêt pas une seule couleur. Elle ne se compose pas d'une unique matière. Bien loin que l'inspiration de la sobre palace en ait décidé les dessins, l'aspect en rappelle plutôt la méthode des artistes du Cachemire. Les bigarrures les plus étranges et les enroulements les plus bizarres s'y compliquent sans cesse des caprices les plus inattendus. Et ce n'est qu'à force de diversité et de richesse que, contrairement à toutes les lois du goût, cet ouvrage, incomparable en grandeur, devient également incomparable en beauté. Ce texte a exactement 150 ans. Il a été publié par Arthur de Gobineau au milieu du XIXe siècle. Et son auteur, un observateur attentif et controversé, comme vous le savez, ne se contentait pas à l'époque de se projeter dans l'avenir, de prévoir. Il décrivait la situation dont il était le témoin à la suite de la révolution industrielle. Et il constatait l'accélération des mélanges et des métissages, bien entendu pour les déplorer, puisqu'à l'en croire, il conduirait à l'effacement des différences et à la production d'une étoffe humaine uniformément grise. Et c'est 150 ans plus tard, aujourd'hui, très exactement ce que redoutent celles et ceux d'entre nous qui pressentent l'avènement d'une culture mondialisée sous l'impact de l'intensification des flux culturels. Je poursuis la lecture de Gobineau. Ainsi, mélange, mélange partout, toujours mélange. Voilà l'œuvre la plus claire, la plus assurée, la plus durable des grandes sociétés et des puissantes civilisations, celle qui a coup sûr leur survie. Et plus les premières ont d'étendue territoriale et les secondes de génie conquérant, plus loin, les flots ethniques qu'elles soulèvent vont saisir d'autres flots primitivement étrangers, ceux dont leur nature et la sienne s'altèrent également. Mais pour que ce grand mouvement de fusion générale embrasse jusqu'aux dernières races du globe et n'en laisse pas une seule intacte, ce n'est pas assez qu'un milieu civilisateur déploie toute l'énergie dont il est pourvu. Il faut encore que dans les différentes régions du monde, ces ateliers ethniques s'établissent de manière à agir sur place, sans quoi l'œuvre générale resterait nécessairement incomplète. La force négative des distances paralyserait l'expansion des groupes les plus actifs. Ce texte est intéressant parce qu'il établit d'emblée une dialectique entre les flux globaux et ce que Gobineau appelle les ateliers ethniques qui sont situés localement et qui absorbent les flux globalisés des marchandises et des biens culturels pour les absorber ou les transformer. C'est donc en ethnologue que je poursuivrai ces réflexions, tout en posant un diagnostic bien évidemment différent dans ses inspirations et dans ses conclusions de celles de Gobineau. Et je le ferai en trois étapes. Je poserai d'abord quelques points de repère. En second lieu, j'aborderai la question du rapport entre ce qu'est une culture et ce qu'est une société qui est vecteur de telle ou telle culture. Et troisièmement, je soulèverai une question de méthode relative au rapport entre le local et le global. Les deux questions que je soulève, celle du rapport entre culture et société, celle du rapport entre le local et le global, sont des points qui manifestement font difficulté. J'ai publié un petit livre sur lequel j'ai beaucoup de retours et je vois bien que ces questions sont cause d'achoppement. Et donc c'est sur celle-là, me semble-t-il, qu'il est important de faire porter le débat. Donc d'abord, quelques points de repère. Nous assistons, vous le savez, depuis le milieu des années 70, à une explosion sans précédent des flux migratoires à l'échelon international, des flux marchands, financiers, médiatiques, culturels. Ces flux se mesurent, on peut les chiffrer, on peut les dater. Nous disposons d'un suivi, pays par pays, de la production et de la circulation des produits cinématographiques, des dépêches d'agence, de la presse, du disque, etc., etc., c'est-à-dire de tous ces biens qui sont qualifiés de culturels. Ce sont des marchandises culturelles qui se vendent et s'achètent à l'échelle mondiale. Je ne citerai qu'un seul exemple, on pourrait en citer de très nombreux. Je vais citer l'exemple de l'équipement des ménages en poste de télévision. Et le poste de télévision étant en général assorti d'un magnétoscope, permet la circulation à l'échelle mondiale des films, des vidéocassettes, etc. Et cet exemple est, à mon avis, un bon indicateur de l'accroissement des flux des produits culturels à l'échelle mondiale. Je comparerai la situation de 1999 à ce qu'elle était en 1985 pour un certain nombre de pays. En 1985, le Nigeria possédait 12 postes de télévision par 1000 habitants. En 1999, cela passe à 68. Le Pakistan, 13 en 1985, 119 en 1999. L'Indonésie, 38 en 1985, 143 en 1999. L'Iran passe de 53 à 157 dans le même laps de temps. À titre de comparaison, l'Europe, sur ce laps de temps, est restée à peu près à 600 postes de télévision magnétoscope pour 1000 habitants, l'équipement des ménages étant à peu près saturé sur l'ensemble de cette période. Sur ces flux qui sont avérés, qui sont chiffrés, qui ont explosé depuis le milieu des années 70, on peut porter un certain nombre de regards différents les uns des autres en fonction des qualifications des spécialistes. On peut porter le regard de l'économiste de la culture, de l'économiste des échanges internationaux, du juriste, en particulier de la propriété artistique et culturelle et intellectuelle, de l'historien, etc. Le regard que je porte personnellement est celui de l'ethnologue. Alors pourquoi est-ce que cela m'intéresse ? Eh bien, lorsque je vais dans les montagnes du Cameroun de l'Ouest pour étudier les civilisations locales. Si j'arrive dans les montagnes et que les vidéoclubs de Bruce diffusent des films de kung-fu et de Pasteur Born Again, film fabriqué au Nigeria, que les bars servent de la bière locale et des vins d'importation venant de France ou du Chili, que l'architecture locale décline les maisons en parpaing de ciment et en toit de tôle, bien entendu, je ferais mieux de rester chez moi. La poursuite du métier d'ethnologue est subordonnée au maintien de la diversité socioculturelle, de l'altérité, et ce que va chercher l'ethnologue, c'est précisément cela, c'est l'altérité. Si, comme le craignait Gobineau, les mélanges, les métissages nous amènent à une civilisation uniformément grise, c'est la mort du métier d'ethnologue. Étant en fin de carrière et au sommet de ma carrière universitaire, ça ne me chagrinerait que pour mes successeurs. Pour moi, c'est trop tard. Je me rassure car je suis convaincu que la diversité culturelle et l'altérité a encore de grands moments devant elle. Et les points de repère, les quelques éléments de réflexion que je vous propose aujourd'hui viennent précisément d'une réflexion que j'ai menée au cours des 10-15 dernières années sur les conditions d'exercice de mon métier. Je pense qu'un ethnologue ne peut pas ne pas se préoccuper aujourd'hui des conditions d'exercice de son métier dans un univers dans lequel les flux culturels sont globalisés. Et cela m'incite à faire deux remarques. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend par culture ? Il y a en gros deux acceptions, très en gros, à la louche. Première acception, c'est tout ce qui relève du ministère et des industries de la culture, le cinéma, le spectacle vivant, la musique, le patrimoine, le tourisme. L'autre acception, c'est l'ensemble des façons de faire, des répertoires comportementaux, des codes de moralité, des pratiques sociales, religieuses, politiques, ludiques, musicales, etc., qui sont propres à une société donnée. Cette deuxième acception, c'est bien sûr l'acception des ethnologues. Et toutes ces façons de faire, toutes ces coutumes, cette culture, c'est ce qui permet aux membres d'une société donnée de s'identifier entre eux, de se différencier des autres et de se situer dans une histoire. C'est en quelque sorte la boussole d'une société ou le mode d'emploi d'une société. C'est ce qui fait que si une culture se désintègre et se désagrège, les gens sont déboussolés. Et c'est cette définition-là que j'utilise comme clé d'analyse, de déchiffrement des faits de globalisation des faits culturels. Bien sûr, je me sers des données des économistes, mais je ne cherche pas la clé dans le marché des marchandises culturelles. La clé de déchiffrement, je la cherche dans ce qu'est une culture par rapport à la société. Bien entendu, la définition des ethnologues est infiniment plus large et plus englobante que celle, disons, des biens culturels en tant que ce qui relève du ministère de la culture ou des industries de la culture, puisque font partie de tous les répertoires comportementaux des choses comme le vêtement, l'alimentation, les pratiques de santé, tout ce qui est de l'ordre du médical, mais du paramédical ou de tout ce qui relève du soin du corps, des techniques du corps, de la culture matérielle, etc. Si bien que lorsque je parle de la mondialisation des flux culturels, je ne parle pas seulement des produits cinématographiques ou des produits de la musique, je parle aussi des pratiques médicales qui se sont globalisées, la biomédecine qui s'est globalisée dans les 30, 40, 50 dernières années. Je parle aussi de l'alimentation ou du vêtement. Alors, cela m'amène à ma deuxième remarque. Il y a, je pense, deux débats. En gros, il y a un débat, très bien formulé par Arthur de Gobineau, sur l'uniformisation des cultures du monde. le métissage, le mélange et l'espèce d'amalgame de toutes les cultures du monde. Et puis il y a un autre débat que nous connaissons bien, il est d'actualité, c'est celui de l'américanisation des cultures. Le second débat est subordonné au premier. Si l'on va vers une uniformisation des cultures du monde, il y a toute chance pour que les flux culturels, les flux de marchandises culturelles, le marché mondial de la culture, alignent la planète sur les productions de la première puissance mondiale. C'est là que je fais intervenir mon expérience d'ethnologue, ayant fréquenté pendant une trentaine d'années un tout petit canton de l'Afrique, de l'immense Afrique. J'ai constaté sur place, encore tout dernièrement, puisque j'y ai passé 4 mois à l'automne dernier, d'énormes changements, changements que je constate sur une période de 30 ans, aucune uniformisation, mais aussi une érosion considérable des cultures de la tradition, les cultures africaines. J'y constate aussi une diversification culturelle qui prend la forme, sur place, d'une fragmentation et d'un émiettement. Je pense par exemple aux pratiques religieuses qui s'effritent et se réfractent en une multitude d'églises, de chapelles, de tendances, de prédicateurs. C'est un foisonnement religieux absolument extraordinaire, mais en même temps un effritement. J'ai donc développé ces arguments dans le petit livre qui a été cité tout à l'heure, et j'ai vu que les deux points que j'ai énoncés en introduction font débat, et c'est eux que je vais maintenant aborder. Et d'abord, le rapport entre culture d'une part et société de l'autre, ou si vous voulez, culture et politique, ou culture et organisation sociale et politique. Là, j'énonce un principe de base des sciences sociales qui est peut-être peu vulgarisé, mais en tout cas qui est admis par toutes les disciplines dont je fais partie, qui est qu'il n'existe aucune société au monde, du passé ou du présent, qui n'ait une culture ou une civilisation, et d'autre part, il n'y a pas de culture ou de civilisation qui ne soit celle d'une société donnée, morte, une société du passé ou vivante. L'énoncé paraît extrêmement banal. Il ne l'est pas quand on regarde les conséquences et les implications, car il est impossible de séparer les deux. Il n'y a pas de culture qui n'ait un vecteur et un support. La culture américaine, par exemple, c'est la culture des Américains en Amérique aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je bois du Coca-Cola que je bois de la culture américaine en solution dans le Coca-Cola. Je bois du Coca-Cola en français avec des Français à Paris dans une organisation sociale française, mais qui a importé du Coca-Cola. Ça paraît tout bête, mais vous pouvez étendre ça à McDo, au Blue Jeans et à bien d'autres choses. Ça commence déjà à clarifier un peu le débat. Il ne faut donc pas céder à l'illusion qui consiste à autonomiser ou à essentialiser des éléments de culture ou des complexes de culture. Et de plus, personnellement, je pense que dans le tandem, le couple, culture-société, l'élément le plus structurant, celui qui mène le jeu, ça n'est pas l'identité culturelle. Culture et identité, c'est à peu près bonnet blanc, blanc bonnet, on pourrait en discuter bien sûr. Ce qui mène le jeu, c'est les rapports sociaux et c'est les rapports politiques. Alors cela fait débat, tout le monde n'est pas d'accord, et je vous signale qu'il y a débat et que je me positionne dans ce débat, puisque à mes yeux, c'est vraiment les rapports sociaux et politiques qui, à terme, priment. Un politologue comme Samuel Huntington, qui s'est fait connaître par un livre qui a été beaucoup lu, Le choc des civilisations, pense l'inverse. Il pense que les identifications culturelles déterminent les choix politiques et les alliances à long terme. C'est vrai que tout groupe s'engage dans des alliances et dans des conflits en fonction de ses propres répertoires culturels. Et ces répertoires culturels déterminent souvent des procédures d'alliance et d'entrée dans des conflits. Mais on peut faire valoir des quantités de contre-arguments qui, à mes yeux, en tout cas, sont plus forts. L'humanité est une machine à fabriquer des conflits. La paix universelle n'est pas pour demain. Le pouvoir est partout. Les divergences d'intérêts sont partout. Entre groupes, catégories, régions, pays, corps constitués, employeurs, employés, etc. Les identités à elles seules sont insuffisantes à régler ces conflits, à les estomper, à créer des alliances entre des personnes qui auraient les mêmes identifications mais des intérêts divergents. Entre Français, nous savons très bien que nous avons une identité française, mais que nous sommes capables de manifester très clairement nos divergences de vues et nos divergences d'intérêts, nos conflits. Les identités à elles seules sont insuffisantes pour alimenter des conflits durables ou des alliances durables. Si, par exemple, la convergence des intérêts pousse à l'alliance, on peut voir Israël, les États-Unis, les Émirats du Golfe créer une alliance durable et forte, capable de survivre à des tensions internes extrêmes, à des orages que nous connaissons tous à l'intérieur de cette alliance, et de survivre au cyclone de la politique mondiale, en faisant abstraction de l'appartenance de ces trois ensembles sociaux, politiques, aux trois grandes religions du livre, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc là, on voit bien que c'est les intérêts qui priment sur les identités et la culture. Dans les alliances et dans le conflit, les protagonistes vont mobiliser les différences culturelles et ils vont même produire de la différence culturelle. Dans une cour de récréation de l'école primaire, la bande à Dupont et la bande à Durand vont fabriquer des différences. Il y en a un qui va aimer tel film, l'autre groupe va aimer tel autre, et ils vont produire de la différence identitaire. Et nous en avons des exemples classiques dans un livre maintenant fameux, celui de Eric Hobsbawm et Terence Ranger, qui est un livre collectif intitulé « The Invention of Traditions », l'invention des traditions, et qui, dans le contexte de l'Europe des nationalités au XIXe siècle, montre comment les pays européens ont produit de la différence et de l'identité culturelle, en produisant des traditions écossaises et galloises, en codifiant les traditions de la monarchie britannique, en essentialisant les fonctionnements de l'Inde victorienne, de l'Afrique coloniale, et en opérant une production massive d'identités régionales en Europe de 1870 à 1914. Donc on voit très bien que dans les tensions, les conflits d'intérêts, la compétition pour le leadership régional, l'Europe a fabriqué de la culture. Et la conclusion que je tire de ceci, c'est qu'il n'y aura pas de culture mondialisée, il n'y aura pas de mondialisation de la culture ou de culture unique à l'échelle du globe, tant qu'il n'y aura ni paix universelle, ni gouvernement mondial. Vous m'avouerez qu'on en est loin. L'humanité est une machine à fabriquer de la différence parce que l'humanité est une machine à fabriquer du conflit. Durkheim pensait que le conflit était pathologique. Il voulait soigner la société en éliminant le conflit. Les travaux des sociologues nous ont convaincus du contraire, et des historiens aussi. Et je dirais que la sociologie a viré sa cutie dans les années 1950 avec, en France, des personnes comme Georges Balandier qui nous ont habitués à l'idée que le conflit est moteur de l'histoire et moteur du changement. Alors j'en viens maintenant au troisième point que je voulais développer, c'est-à-dire le deuxième qui fait débat. C'est la question du rapport entre le local et le global. C'est une question de méthode. L'analyse des réponses que les diverses sociétés apportent à la mondialisation des flux culturels peut se fonder sur deux types de données. Le premier type de données, c'est les données chiffrées qui nous permettent de saisir, d'appréhender l'émission mondialisée des biens culturels. C'est-à-dire tous les chiffres qui nous donnent, par exemple, le nombre d'entrées à l'échelle du globe et pays par pays dans les salles de cinéma pour voir le film Titanic. Ou les chiffres de la presse et des grands groupes de presse comme Murdoch, ou les chiffres des productions et de la distribution à l'échelle mondiale des grands groupes multimédia. Ça, c'est l'offre ou l'émission mondialisée, la production, l'offre et l'émission mondialisée de biens et de marchandises culturelles. Alors, on peut ajouter aux biens culturels au sens des industries de la culture, tout ce que j'ai rajouté dans le domaine de l'alimentation, des soins de santé, du vêtement, etc. Alors, l'autre type de données regarde le même phénomène, mais par l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire la réception localisée des biens et des marchandises culturelles. Je peux prendre toutes les statistiques que je peux recueillir un peu partout, à l'INSEE, à la documentation française, sur les sites internet, etc. Ou au contraire, je peux aller pendant 4 mois dans un petit village, une zone rurale des montagnes du Cameroun de l'Ouest, voir ce qui arrive et voir sur place ce que font les personnes, les Africains qui reçoivent ces biens. Comment les reçoivent-ils? Comment les détournent-ils? Les domestiquent-ils? Qu'est-ce qu'ils en font? Ces données sont produites par des personnes qui ne sont pas les mêmes. Les données sur l'offre et l'émission sont produites par des économistes, par des cadres d'entreprise, par des chercheurs, centralisées par l'Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale ou l'Agence française de développement, les organismes internationaux, etc. Les données locales sont recueillies à la réception par des ethnologues, des journalistes, le clergé des différentes églises, les membres des ONG qui sont sur le terrain. L'expérience que j'en ai, c'est qu'un monde sépare les personnes qui appartiennent à la production des données sur l'offre globalisée. Un monde sépare ces personnes-là des personnes de terrain, des gens qui ont plutôt tendance à chausser des patogas ou des bottes et à aller dans les villages. Les premières données, celles qui relèvent de l'offre globalisée, sont accablantes. Les chiffres de production, de diffusion des flux télévisuels et cinématographiques donnent l'image d'une planète lobotomisée, et privée de son autonomie culturelle et de la production locale et le conservatoire local des œuvres de culture. Les données qu'on peut recueillir sur place, donnent l'image de phénomènes de tri, de rejet, de détournement, de réappropriation, d'émiettement aussi. Cette image n'est pas forcément plus rassurante que l'image accablante des flux globalisés, en particulier lorsqu'elle donne cette impression d'émiettement et d'effritement, de bricolage culturel qu'il arrive souvent de voir, de constater sur place. Je vous propose de faire un test que chacun peut faire pour soi. Il existe une littérature en augmentation constante sur l'impact culturel des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le net bien sûr, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du film, de la télévision, des vidéos, cassettes, etc. Et à partir de là, un certain nombre d'auteurs se risquent à faire des pronostics. Soit des pronostics utopistes, comme par exemple les pronostics de Jacques Attali, voyant une planète démocratisée et unifiée grâce au net, ou à l'extrême opposé, des pronostics apocalyptiques qui furent ceux de Jean Baudrillard il y a quelques années, ou ceux dont Ignacio Ramonet se fait l'écho aujourd'hui. Si vous regardez ces pronostics, ces essais de prévision de l'avenir, ils sont fondés exclusivement sur les données globales et jamais sur les données locales. Jacques Attali n'a pas chaussé les patogas pour aller dans les montagnes du Cameroun de l'Ouest, et Jean Baudrillard non plus. Ignacio Ramonet pas plus, encore qu'il voyage énormément. Mais la question est de savoir quelles sont les données qu'on prend en compte. Et quand on prend les données globalisées, bien entendu, on arrive à des pronostics qui sont soit des pronostics utopistes, soit des pronostics accablants, mais qui sont, à mon avis, biaisés. L'erreur, en l'occurrence, n'est pas une erreur d'analyse. Ça n'est pas une erreur de paradigme théorique. L'analyse est en place, les paradigmes théoriques également. C'est à la source, au moment où on collecte les données, qu'on ne s'est pas adressé à toutes les sources auxquelles il faudrait s'adresser pour avoir une vue complète des choses. Je ne dis pas équilibrée, mais au moins complète. C'est donc vraiment tout à fait au point de départ de la réflexion que se pose le problème des méthodes et de la pertinence des données que l'on prend en compte. Et moi, ce que je propose, c'est de prendre en compte toutes les données de l'offre globalisée et toutes les données de la réception localisée. Bien sûr, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que les données globalisées, paradoxalement, elles sont relativement faciles à obtenir. Il suffit de s'adresser à l'OMC ou aux organismes internationaux, à la Banque mondiale, on les a, il y a des annuaires qui sont tenus à jour, année après année. Par contre, pour avoir une vue relativement fiable, relativement exacte de ce qui se passe localement, dans tous les villages de la planète, il faudrait non pas des milliers d'observateurs, mais des centaines de milliers d'observateurs. Et si chaque village avait son ethnologue, ce ne serait pas forcément une bonne chose. Dans la profession, nous avons l'habitude de dire que la famille d'Indiens américains se compose du père, de la mère, des deux enfants et de l'ethnologue. Ça n'est pas forcément quelque chose qu'il faille reproduire à l'échelle mondiale, mais il faut le savoir qu'on ne va pas tellement dans les villages et que le passage d'un journaliste pressé, Dieu sait qu'ils font du travail absolument admirable, mais ils sont par définition des gens qui ne restent pas. Ils doivent aller là où ça se passe. Et un journaliste ne peut pas se permettre le luxe absolument invraisemblable à notre époque de passer, comme je l'ai fait, 4 mois dans un village tout dernièrement, ou comme je l'ai fait au début de ma carrière en passant carrément 2 ans. C'est du luxe pur et simple. C'est coûteux en temps, en argent, et on ne peut plus se le permettre. Bon, il faut le savoir. Cette difficulté à faire rejoindre les données du local et du global procède en partie de la division du travail scientifique et du travail tout court. Le travail du journaliste n'est pas celui du membre d'une ONG ou d'un ethnologue. Procède également d'une ignorance pure et simple par enfermement. Les ethnologues, nous devons faire notre autocritique. Nous nous sommes enfermés dans le local pendant jusqu'à une époque relativement récente. Et quand, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au rapport, aux dialectiques entre le local et le global. L'écho que j'ai reçu dans la profession était sympathique, mais il n'était pas intéressé. Il en est autrement aujourd'hui. Et puis, à mon avis, il y a aussi une réticence assez générale à aller sur le terrain et à faire des enquêtes de terrain, parce que c'est inconfortable, ça peut être dangereux. Si on est en Afrique, bon, il y a des moustiques, des amibes, on ne mange pas forcément ce qu'on pourrait manger dans le 6e arrondissement de Paris, et c'est quand même plus confortable d'être ailleurs. D'un certain point de vue, parce qu'on peut aimer ça, et moi j'aime ça. Alors, je vais vous donner un exemple de réponse localisée. Il est tiré de mon expérience africaine. En 1960, à l'indépendance, il y avait des rois africains, il y avait de grandes royautés, de grands royaumes, et dans l'esprit modernisateur des promoteurs de l'indépendance africaine, des Africains qui ont promu l'indépendance africaine, les royautés africaines étaient vouées à disparaître dans un laps de temps relativement court. Or, aujourd'hui, en 2003, les rois africains sont de retour sur le devant de la scène. Ils ont fait un retour absolument remarquable dans les années 80-90. Les objets sacrés sont restaurés, les palais sont relevés de leurs ruines. Il n'y a pas de reproduction nostalgique du passé. Les royautés sont instrumentalisées dans la vie politique des différents pays. Les rois sont à la fois des hommes d'affaires, des politiciens, des cadres de la fonction publique, souvent très élevés, des membres des professions libérales, médecins, avocats, etc. Et ils combinent royauté traditionnelle, entre guillemets, néo-traditionnelle, et le rôle de roi. Les palais ont été modernisés. Ils sont électrifiés, sonorisés. Ils sont médiatisés par les télévisions nationales, par la presse locale, par des politiques du patrimoine qui très souvent sont accrochées à des politiques du patrimoine mondial. Par exemple, l'UNESCO a travaillé très fortement à la restauration du palais du roi des Bamoum à Foumban dans l'ouest du Cameroun. Vous pouvez constater cela au Nigeria, au Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains. C'est un phénomène qui est soutenu, qui est original, mais pour bien le en mesurer, toute l'originalité, il faut aller sur place et y rester. Et rester suffisamment longtemps pour voir le cycle de vie d'un palais sur un cycle annuel complet. Et on pourrait dire que ces nouvelles royautés sont inauthentiques, mais elles ne sont ni plus authentiques ni moins authentiques que les royautés du milieu du XIXe siècle. Elles sont dans l'histoire. Alors là, il faudrait réfléchir sur ce que c'est que l'authenticité, mais on n'en a pas le temps. Donc, on voit là une réponse locale, originale, à un phénomène global, parce que tout ça est branché sur la télévision, les médias, la presse, la politique nationale qui elle-même est branchée sur la politique internationale. Quand on fait des enquêtes locales, on se rend compte que les situations sont très contrastées. Aux deux extrêmes d'un continuum entre toutes ces situations, on peut avoir le basculement dans une violence extrêmement destructrice, y compris des cultures de la tradition, au Libéria, en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Lacs, ceci pour rester en Afrique. Au contraire, on peut avoir des productions politico-culturelles originales, comme celle des royautés, qui mobilisent ou remobilisent toute la tradition, patrimonialisent la culture, s'arrangent pour que les musiciens refassent et reprennent les répertoires anciens, répertorient ces pratiques musicales, fassent venir des ethnologues, des ethnomusicologues, etc. Ils font des musées aussi. Et entre les deux, on a toutes sortes de situations extrêmement contrastées. De sorte qu'il y a quatre portes d'entrée possibles ou perspectives possibles sur tous ces phénomènes. Et là, je demande la projection du petit tableau que j'ai griffonné à la main avant la conférence. Vous pouvez, la porte d'entrée dans ces phénomènes peut être soit une porte d'entrée politique, par la politique ou les rapports sociaux et politiques, ou une porte d'entrée par les identités et la culture. Et puis vous avez deux autres portes d'entrée, ça se croise à angle droit, c'est un tableau carré. Vous pouvez entrer par le local, vous pouvez entrer par le global. Et ça fait différentes postures théoriques ou différentes, disons, postures d'analyse. Jean-François Bayard, qui a été pendant 6 ans directeur du CERI, qui est chercheur au Centre d'études des relations internationales, utilise les portes d'entrée du politique et des répertoires locaux, des trajectoires locales du politique dans leur rapport à la globalité. Il se situe donc dans la case politique locale. Il se trouve d'accord avec Ignacio Ramonet, journaliste au Monde diplomatique, pour utiliser la porte d'entrée des rapports sociaux et politiques, de ce qui fait conflit, etc., pour analyser les faits de culture. Mais Ignacio Ramonet résonne à l'échelle du monde, à l'échelle globale. Et il se trouve ainsi dans la case du politique et du global. Lorsqu'on utilise la porte d'entrée des identités et des cultures locales, on se trouve dans le domaine de l'ethnologie la plus classique. Et j'estime que un personnage comme Marshall Salins est tout à fait représentatif à un niveau de qualité très très élevé de cette posture. Enfin, si l'on aborde ces questions par les identités à l'échelle globale, on est dans la posture de Samuel Huntington, qui se trouve diamétralement opposé à la posture de Jean-François Bayard. Il faudrait bien sûr affiner considérablement sur ce tableau, mais il donne à mon avis une clé de déchiffrement et permet de situer tel ou tel auteur. Je vais maintenant conclure en quelques mots que j'assène, peut-être pour stimuler le débat. La mondialisation des flux, des marchandises culturelles est un fait. Les sociétés locales réagissent de manière très différente les unes des autres à cette mondialisation. Les réponses offertes par chaque société sont en général en grande partie politiquement configurées. L'humanité en état de conflit est une machine à produire de la différence sociale et culturelle en permanence. C'est localement et au coup par coup qu'on peut prendre la mesure de la production de la différence. L'humanité ne prend pas le chemin d'une culture unique et globalisée. On constate cependant la disparition des cultures de la tradition ou leur reprise dans des choix culturels contemporain, une sorte de tradit moderne. Et dans bien des cas, ces cultures font place à un émiettement des répertoires culturels et à des bricolages identitaires qui sont enchevêtrés aux politiques. Je vous remercie de votre attention.
Je souhaiterais aborder partiellement le premier débat, et, c'est-à-dire celui qui oppose apparemment, selon vos thèses, culture et société comme déterminant des enjeux d'échange, soit d'échange marchand, soit d'échange non marchand. En fait, sur ces plans de ce débat, je souhaiterais savoir quelle est votre position par rapport à un cas précis, celui de l'exception culturelle, en tant que clause au sein des débats de l'OMC, des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui réserve le droit de la France d'exclure tous les produits des dites industries culturelles. Donc la question précise est de savoir si cette clause dynamisée par un principe identitaire, c'est-à-dire culturel, et dans ce cas-là, ça serait des enjeux purement identitaires qui seront au cœur de cette clause, ou si bien l'exception culturelle serait motivée purement pour des raisons stratégiques, voire économiques. Merci. Oui.
Merci de votre question, elle est très importante. Ce que je constate localement, comme je l'ai dit, c'est en permanence de la production culturelle. La production musicale au Cameroun, par exemple, est considérable et elle est permanente. Je rebondis sur le Cameroun, mais on pourrait parler de la France où la production culturelle est considérable. En France, les artistes, les musiciens, les gens de théâtre, les gens qui font du spectacle vivant, les intermittents du spectacle qui manifestent ces temps-ci sont des créateurs qui créent en permanence. Seulement, voilà, dans une société traditionnelle, des gens qui créent ont tout de suite leur public et n'ont pas de problème économique. Aujourd'hui, les créateurs plafonnent très rapidement dans leur création sur la question économique. Si l'on est créateur, il faut pouvoir vivre de sa création, donc il faut pouvoir commercialiser des produits. Et il faut que ces produits trouvent un marché, il faut qu'ils puissent être distribués à l'échelle mondiale, et donc il y a un réel problème économique qui se pose. Et c'est là que la question de l'exception culturelle se pose, c'est-à-dire que des productions culturelles françaises, qui trouvent un public relativement étroit à l'échelle mondiale quand il s'agit du public français, n'arrive pas à déboucher dans les industries de la culture. Il s'agit de faire déboucher les produits dans les industries de la culture pour que ces créations culturelles puissent vivre et survivre. Alors là, c'est un conflit d'intérêts et inévitablement, on entre en conflit avec des pays qui ont des intérêts opposés aux nôtres c'est une épreuve de force. Mais le problème de la création culturelle contemporaine, c'est le problème de l'économie, de la survie économique, de la diversification des productions culturelles. La diversité, elle est là. La survie économique, elle n'est pas assurée. Et c'est la raison pour laquelle il faut une politique publique ou du mécénat qui permette à la création de survivre. L'un de mes collègues qui avait lu très attentivement mon livre m'a dit, mais à la fin du livre tu proposes une organisation mondiale de la culture pour faire pièce à l'Organisation mondiale du commerce, or tu as argumenté tout au long de ton livre pour dire que le contre-pouvoir il était là puisque l'humanité est une machine à fabriquer de la différence. Alors je me suis dit oui, il a raison. Dans un deuxième temps je me suis dit non, il a tort, parce qu'il croit que le marché, c'est un libéral, il croit que le marché va pouvoir réguler la production culturelle et le marché ne le peut pas. Il faut aider la production culturelle.
Oui, je souhaiterais revenir sur le thème du bricolage culturel que vous avez évoqué tout à l'heure, si c'est bien ce que vous évoquiez. Et la question que je voulais vous poser, c'est justement, est-ce qu'on peut dire que, selon l'évolution de notre siècle dernier, on peut parler d'une plus grande perméabilité culturelle? Et si quelque part ça se traduit par une plus grande vivacité culturelle à visage multiple, en faisant une comparaison selon l'histoire, en fait.
C'est pas simple, hein. Et je suis pas sûr d'avoir la réponse. Ça m'interroge constamment, cette affaire-là. Bon. Alors, je reviens à mon point de vue d'ethnologue, mais disons ethnologue, presque ethnologue préhistorien, hein, c'est-à-dire. J'ai quand même essayé de me donner une perspective historique très profonde, dans la mesure où Nous sommes bien évidemment très frappés par ces phénomènes de perméabilité des frontières à tout ce qui est du domaine de la culture. C'est ce qui fait d'ailleurs que le tourisme de masse est possible, parce qu'on peut aller à New York, à Pékin ou ailleurs, on arrivera toujours plus ou moins à se débrouiller. Alors qu'aller à Pékin il y a 150 ans, c'était prendre des risques considérables. Toute question de danger étant mise à part, simplement on n'était pas opérationnel. On avait tout à apprendre, donc on ne pouvait pas survivre. Tandis qu'aujourd'hui, on arrive à survivre parce que même à Pékin, on trouvera un McDo. Donc, il y a... bon, il y a cette question de perméabilité. Ça nous frappe. Ça n'a rien de nouveau. C'est-à-dire que les archéologues préhistoriens nous ont maintenant habitués à voir l'histoire de l'humanité comme l'histoire d'un flux absolument constant à l'échelle de la planète. L'histoire du flux des plantes cultivées, par exemple, est absolument extraordinaire. Enfin, tous les arbres fruitiers qui nous ont venus de Chine, la cerise, la pomme, etc., tout ce qui nous est venu d'Amérique, la pomme de terre, le tabac, la tomate, toutes sortes de choses, bon, c'est devenu du quotidien pour nous, c'est devenu la tomate, maintenant la pizza, la tomate, la sauce tomate, etc. Ça, c'est les Italiens. Ben non, c'est pas les Italiens, c'est... Tomate, c'est un mot américain, c'est tomato, etc., etc. Donc, toutes les civilisations ont toujours été perméables et elles ont toujours bricolé avec des éléments qui leur venaient d'ailleurs, parfois avec des résultats spectaculaires. Par exemple, les agrosystèmes africains ont été bouleversés une première fois par l'arrivée de tous les cultigènes asiatiques, et une deuxième fois par l'arrivée de tous les cultigènes africains. Ça a changé radicalement les économies locales et les politiques locales. Bon, donc, ce qui est nouveau, c'est l'intensification de ce phénomène-là, ça n'est pas le phénomène en lui-même. Et, alors, je ne sais pas très bien où est votre question, du coup, parce que peut-être faudrait-il maintenant que vous la reformuliez, parce que moi, le bricolage, ça ne me choque pas, parce que ça a toujours été le cas. On a toujours pris des choses, on a toujours essayé de les bricoler avec des choses locales.
Bah, c'est-à-dire que je prends l'exemple de ce qui nous concerne un peu tous aujourd'hui, en France et notamment en région parisienne, on voit qu'il y a un véritable métissage qui se fait. Et évidemment, peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, ça paraissait inimaginable de la part de personnes qui n'avaient pas été confrontées à cette situation. Aujourd'hui, c'est un peu comme le phénomène gay aussi. C'est totalement dans les mœurs. Et est-ce que cette faculté d'adaptation, d'imprégnation culturelle, on peut penser qu'elle est facilitée avec la structure mondiale actuelle?
Oui, alors, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a plus, il y a métissage, bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus, et il y a aussi émiettement. C'est-à-dire que les gays vont pouvoir se fabriquer une culture gay, le troisième âge aussi, les amateurs de bateaux hors bord aussi, etc., etc. Et puis, on va avoir des chaînes thématiques. On va voir, je ne sais pas moi, la chaîne thématique chasse et pêche, mais il peut y avoir la chaîne spectacle, la chaîne cinéphile, la chaîne TV Bryce, et pourquoi pas 15 chaînes régionales. Hein. Et à chaque fois, on va avoir ce phénomène à la fois de métissage, c'est-à-dire TV Bryce va prendre des tas de trucs qui ne sont pas bretons, et va en faire quelque chose... et va reprendre des anciens bagats, par exemple celui de Lan Biwe, et puis vous allez avoir des compositeurs de musique qui vont composer de la musique pour le bagat de Lan Biwe. Alors bon, d'accord, c'est de la cornemuse et tout le reste, mais en même temps, c'est des thèmes musicaux, des façons musicales, etc., qui sont importés, qui sont pas, que vous trouvez pas dans le répertoire breton traditionnel entre guillemets. C'est pour ça que la notion de tradition est très difficile à manier. C'est qu'à la fois, il y a des traditions, mais à la fois, il n'y a jamais eu de tradition. Je veux dire, il n'y a jamais eu de tradition figée. Les traditions ont toujours été des bricolages permanents. Alors, ce qui pose problème dans ces métissages et ces bricolages, c'est la question de savoir si on peut encore se parler. C'est-à-dire que y a-t-il une construction culturelle qui fait qu'on a un mode d'emploi de la société française ou on a une boussole de la société française, c'est-à-dire qu'on a un référent qui fait que si on a la culture gay ou la culture bretonne, qu'on envoie ses enfants à l'école d'Iwan et qu'on essaie de restaurer le breton, est-ce qu'on va encore se dire, bon, on a une culture politique et un projet politique français, on va arriver à discuter ensemble. C'est pour ça que les cultures sont emboîtées les unes dans les autres. Et le problème du métissage et du bricolage devient un problème le jour où cet effritement, cette fabrication de cultures, de sous-cultures, est telle qu'on en vient à l'intérieur d'un corps politique donné à ne plus avoir de référence commune. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Alors, c'est ça, à mon sens, qui m'inquiète beaucoup plus qu'une mondialisation de la culture à laquelle je ne vois pas en route. Je ne la vois pas. Localement, je ne la vois pas. Par contre, je vois ces bricolages, ces métissages et ces émiettements au jour le jour, et c'est ça qui, moi, me fait problème. C'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour fabriquer de la culture qui reste une boussole et un mode d'emploi pour une société donnée ?
Moi, j'aurais deux questions qui sont un peu plus de méthode, enfin, je pense, qui sont très simples. Juste la première, ce serait d'avoir peut-être une définition, mais les caractéristiques de ce que vous avez appelé l'authenticité, parce que j'ai l'impression qu'il y a un nœud peut-être quelque part ici. Et une deuxième question, si on reste dans l'anthropologie dynamique, celle de Balandier, etc., à partir de quel moment, même si je sais qu'il ne doit pas y avoir un moment, mais à partir de quels critères, on peut passer de la tradition à la modernité ? Donc la question de l'authenticité et celle du passage entre tradition et modernité. Merci beaucoup.
Alors l'authenticité, bon, c'est pas facile de répondre en deux mots. Disons que c'est l'ailleurs, c'est un autre espace. L'authenticité se situe dans un autre espace et dans un autre temps. C'est ou bien le passé ou bien l'avenir. Quand on se projette dans l'avenir, qu'on se dit que l'avenir va être meilleur que le présent, c'est l'authenticité d'une utopie. Ou c'est l'authenticité de l'ailleurs parce qu'on n'a pas ici ce qui paraît plus authentique ailleurs. Par exemple, l'authenticité de l'Occident, disons de Montaigne, à l'espèce d'effondrement du mythe ethnologique au XXe siècle, ça a été les sociétés de la tradition, qui paraissaient plus authentiques, plus proches de la nature, c'était le bon sauvage, etc. Avec toute l'ambiguïté que l'on trouve dans La Tempête de Shakespeare et dans Robinson Crusoe, à savoir que l'autre est à la fois le cannibale, le caliban et l'Ariel, le bon sauvage. Donc, quand vous regardez la construction de l'authenticité, par exemple, aujourd'hui en France, c'est toujours pour vous dire, ben, nous, on fait du vin d'Arbois authentique parce que on a par exemple le château Pecot à Arbois et qu'on a réussi à savoir maintenant ce que c'était qui faisait la spécificité du vin jaune, du vin de paille, du ploussard, etc., qu'au château d'Arbois, au château Pecot, nous travaillons avec l'Institut Pasteur sur les levures, les enzymes, etc. Et alors là, il y a une authenticité que nous avons baptisée l'authenticité de l'alliance entre le fût de chêne et la cuve inox. Hein, c'est-à-dire que là, la modernité authentifie quelque chose qui est vraiment bien de la tradition et d'autrefois. Alors c'est des dialectiques extrêmement complexes. L'authenticité, c'est toujours des jeux de cache-cache. Alors les jeux de cache-cache, on peut les jouer dans tous les sens. C'est pour ça que c'est difficile à définir d'un seul mot. Alors la tradition et la modernité, Balandier dit que, bon, vous avez lu Balandier manifestement, hein, pour lui la modernité c'est le désordre et l'ordre, la dialectique de l'ordre et du désordre d'une certaine manière. Moi, j'ai personnellement les catégories de tradition et de modernité, c'est des catégories dans lesquelles j'ai du mal à faire entrer la problématique sur laquelle je travaille. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, il y a sans doute une question à laquelle il faudrait que je réfléchisse. Je lis. Évidemment, le choc créé par Balandier dans les années 50 a été énorme et j'en suis l'héritier. Bon, là, il y a une dette. Cela dit, moi, ce qui me frappe, c'est l'intensification de phénomènes que je constate. Bon, là, je vais vous donner un exemple. J'ai encore le temps ? Bon. Deux de mes collègues ethnologues ont fait un inventaire absolument superbe des trésors des chefferies du Cameroun de l'Ouest. Ils avaient toutes les autorisations voulues, de sorte que quand ils arrivaient dans une chefferie, le chef les recevait, il ouvrait son trésor, il leur donnait accès aux pièces. Eux ont vu des statues qui dataient du début du XXe siècle, qui étaient anciennes, qui étaient patinées, fin XIXe, etc., des choses extrêmement anciennes et tout. Bon, ça, ils ont dit, ça, c'est de l'authentique. Ils ont fait une fiche, ils ont pris les photos, etc., ils ont fait le répertoire, ils ont travaillé là-dessus. Et puis, ils ont vu des choses comme, par exemple, des bustes en plâtre du chef régnant, peints à l'acrylique. Et ça, ils ont dit, non, ça, on ne le prend pas dans l'inventaire. Moi, ma position est tout à fait différente. Moi, s'il y a un buste en acrylique dans l'inventaire, je prends le buste en acrylique, je prends tout. Pourquoi ? Moi, je leur ai dit, si vous vous transportez dans la même chefferie à la fin du 19e siècle, mettons en 1880, vous allez trouver un tabouret fabriqué localement et puis vous allez trouver une pièce qui, dans le cadre des échanges au loin entre nobles et entre rois, vient de la vallée de la Bénouée. Dans le trésor de l'époque, ça venait comme les cheveux sur la soupe. C'était exactement comme un buste en acrylique. Et donc, si vous faites une sorte de purification du donné, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que la dynamique d'un trésor de chefferie. Vous allez faire de l'authentique qui sera en fait ce que j'appelle moi de l'authentoque à la suite de je ne sais plus trop quel auteur. J'aimerais bien me souvenir de son nom parce que je lui dois ce mot. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir le moment où on bascule dans quelque chose qui serait de la modernité du buste en plâtre peint à l'acrylique. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal. Alors, je pense que dans les années 50, on était dans une situation historique très différente de celle d'aujourd'hui. Et par conséquent, Balandier a eu vraiment le sentiment qu'on basculait dans quelque chose de totalement différent, qui était la modernité. Et puis, regardant en arrière à partir de la posture qui est la nôtre aujourd'hui, on se dit, mais attention, on est en train de croire qu'on a basculé dans quelque chose de tout à fait original, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Ça demande à être questionné. Ça ne répond pas à votre question, bien sûr, je suis désolé. Mais c'est une question que je me pose, c'est pour ça que c'est intéressant d'en débattre.
Oui, merci. Je voudrais introduire un mot dans le débat au croisement entre culture et société et pour revenir un peu sur nous, chez nous. Je crois que l'intérêt de la conférence que vous donnez et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent et qui s'y intéressent, ça vient du fait qu'il y a une inquiétude chez nous et dans la plupart des pays développés par rapport à la mondialisation. Ça nous angoisse par rapport à notre identité et on a peur de la perdre. Il y a une angoisse de disparition, par exemple, par rapport à la langue française, ça commence, alors que c'est quand même une langue qui a tout un dispositif étatique, international, derrière elle. Ce n'est pas le breton, ce n'est pas une langue non écrite, et même une langue aussi privilégiée que le français, aujourd'hui, il y a des inquiétudes qui s'expriment. Alors, le mot que je voudrais introduire, c'est « nation ». Et parce que la nation, c'est le point de jonction entre la culture et l'espace politique. Ça, c'est supposé être un espace politique conforme territorialement aux limites d'une culture. Bon, en fait, c'est plus compliqué, mais on va pas rentrer là-dedans. Voilà, ce que je voudrais vous demander, c'est en tant qu'ethnologue, est-ce que vous pensez qu'une culture ou une nation, ça naît et ça meurt ou bien est-ce que vous voyez plutôt les choses en termes de stratification entre local et global, et n'importe quel niveau qui est un niveau finalement arbitrairement construit? Et est-ce qu'il y a de la vie et de la mort dans les cultures, ou bien est-ce que c'est un perpétuel renouveau? Merci.
Écoutez, le nom qui me vient à l'esprit, c'est le nom de Arjuna Padurai, dont le livre Modernity at Large a été malheureusement très mal traduit en français, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, puisqu'il est d'origine indienne. Il a réfléchi à la nation. Il a publié en 1990 un article relativement court, mais qui a eu un retentissement énorme dans la profession, en tout cas, et en politologie, dans lequel il avance la thèse que, au XIXe siècle européen, État et nation se sont construits la main dans la main, et qu'aujourd'hui, État et nation sont en conflit et se tiennent mutuellement à la gorge. Et il avance des arguments qui sont impressionnants autour du fait, par exemple, que le nationalisme arrive à détruire un certain nombre de pays qui n'arrivent pas à se construire en tant qu'État. C'est assez impressionnant. L'État, au XIXe siècle, semble avoir pu mener le jeu et mobiliser, en mobilisant les forces de la nation, alors qu'aujourd'hui, dans bien des situations du monde, l'État semble impuissant à contenir les poussées du nationalisme, et non seulement à les contenir, mais tout simplement, mais mieux, à les mobiliser, à puiser l'énergie dans les nations pour construire quelque chose. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus avant dans le débat parce que je le maîtrise très mal. C'est beaucoup plus un débat de politologue, je dirais, qu'un débat d'ethnologue. Il faut essayer de rester un peu dans le domaine qu'on connaît pour ne pas dire trop de bêtises. Les questions qui sont posées par Padurai sont des questions, à mon avis, fondamentales. Par exemple, par rapport à la colonisation et aux États colonisés, il dit ceci, par rapport à l'Inde, le cricket est devenu le sport national indien, à telle enseigne que si vous demandez à la plupart des Indiens dans la rue d'où vient le cricket, ils vous diront que mais on joue au cricket en Inde depuis des siècles. C'est les Indiens qui ont inventé le cricket. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage colonial à partir du moment où l'identité nationale est définie par un héritage colonial dans une période de décolonisation? Si je pose cette question-là, c'est pour montrer la complexité de la question que vous posez. C'est que par rapport à ce que c'est que la nation et ce que c'est que l'identité, là on est devant un bricolage réussi, puisque les Indiens ont réussi à s'approprier le cricket et qu'ils battent les Anglais sur les pelouses d'Oxford et de Cambridge. Donc là, c'est vraiment réussi. Mais pour un coup qui est bien réussi, il y en a des quantités qui ratent. Bon, là, je dévie de votre question, hein, mais je pense que ça permet au moins d'en souligner la complexité. Je suis désolé.
Jean-Pierre Vernier, merci beaucoup.